Voici arrivé le moment où Dieu s'adresse à nous et à chacun de nous en particulier par sa parole. Nous avons choisi ce matin de réfléchir dans cette prédication qui va suivre à la manière dont Jésus a parlé de l'argent. Et voici déjà dans l'Ancien Testament comment au livre de Job, au chapitre 23, à partir du verset 23 jusqu'au verset 29, nous entendons quel est le fruit de la réconciliation. Si tu reviens vers le puissant, tu seras rétabli. Jette ensuite à la poussière les lingots et aux cailloux du torrent l'or d'Ophir. C'est le puissant qui te tiendra lieu de lingots et de monceaux d'argent. Car alors tu feras du puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ton visage, quand tu le supplieras, il t'exaucera, tu n'auras plus qu'à t'acquitter de tes vœux. Si tu prends une décision, elle te réussira, et sur ta route brillera la lumière. Et puis, quand nous passons de l'Ancien au Nouveau Testament, et en particulier, bien entendu, aux paroles de Jésus contenues dans les évangiles, nous sommes étonnés, en particulier dans l'évangile de Luc, qui va être celui qui va servir de soutien à ce moment de réflexion, nous sommes étonnés de voir à quel point il y a une collection de textes qui tournent autour de l'argent, des biens de ce monde, du trésor bien sûr inaltérable, mais aussi d'un certain gérant véreux, voleur, ou de riches, de richesses, du salut d'un riche, de mines, de talents. Enfin, on n'en finirait pas. Le choix que nous avons fait de quelques textes voudrait nous aider donc dans cette réflexion. À travers l'évangile de Luc, d'abord ces quelques versets au chapitre 12, ce riche insensé. Il y avait un homme riche dont la terre avait bien rapporté. Il se demandait « Que vais-je faire ? Car je n'ai pas où rassembler ma récolte. » Il se dit « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, en bâtir de plus grands, y rassembler tout mon blé et mes biens. Et je me dirai à moi-même « Te voilà !» avec quantité de biens en réserve pour de longues années, repose-toi, mange, bois, fais bonbons. Insensé, dit Jésus, cette nuit même, on te redemande ta vie. Et puis cette parabole que j'ai déjà annoncée du gérant, qu'on peut dire habile, mais qui est surtout voleur, et que l'on trouve un peu plus loin au chapitre 16 du même évangile, dont nous lisons cette fois-ci l'ensemble. Un homme riche avait un gérant qui fut accusé devant lui de dilapider ses biens. Il le fit appeler et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends les comptes de ta gestion, désormais tu ne pourras plus gérer mes affaires. » Le gérant se dit en lui-même « Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gérance ?» Bêcher, j'en ai pas la force, mendier, honte. Je sais ce que je vais faire. Une fois écarté de la gérance, il y aura des gens qui m'accueilleront chez eux. Il fait venir alors un par un les débiteurs de son maître et il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? » Celui-ci répondit, « 100 jarres d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite assieds-toi, écris 50. » À un autre, il dit, « Et toi, combien dois-tu ? » 100 sacs de blé, le gérant lui dit, voici ton reçu, écris 80. Et le maître fit l'éloge du gérant trompeur parce qu'il avait agi avec habileté. En effet, ceux qui appartiennent à ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leurs semblables que ceux qui appartiennent à la lumière. Suis ces quelques réflexions, eh bien moi, je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur, pour qu'une fois celui-ci disparu, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. On note aussi que les pharisiens, qui aimaient l'argent, écoutaient tout cela et ils ricanaient à son sujet. Seigneur, à quel autre que toi irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Je vous invite à chanter maintenant au cantique 186, la première, la deuxième et la cinquième strophe. Seigneur, tu es au milieu de nous sans que nous ne t'ayons appelé. Tu nous parles avec nos mots, dans nos situations. Nous pouvons rester à la surface de ces mots sans comprendre qu'ils ont le pouvoir de nous donner une vie qui n'est pas en nous. Ce secret d'une autre vie, nous pouvons le percer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, si tu nous éclaires d'un nouveau jour, de ce jour premier de la semaine, de cette aube, alors qu'il fait encore nuit, et qui suffit à nos yeux aveugles. C'est sans nuance, c'est sans équivoque, en tout cas c'est sans aucun ménagement, que Jésus s'est exprimé sur l'argent, et en particulier sur son pouvoir d'asservissement de l'homme comme le pouvoir le plus redoutable qui puisse exister. La célèbre appellation d'argent trompeur décrit parfaitement sa pensée. L'argent, c'est le menteur, l'argent, c'est l'escroc. C'est donc très surprenant quand même de remarquer à quel point il s'est exprimé à son sujet. Et sans jugement de valeur, il est toujours question, du moins à tant d'endroits de l'Évangile, de puissance, de fortune, de biens matériels, de maîtres riches, de propriétaires puissants, de pères à héritage, avec des serviteurs, des ouvriers, zélés ou paresseux, honnêtes ou voleurs, dans un contexte de revenus, de rendements, de placements bancaires, de rentabilité de toutes sortes. Comment alors le fidèle disciple de Jésus peut être formé à travers de telles images? Et pourtant, c'est bien le profit et le gain qui vont servir d'illustration à la première catéchèse de l'histoire chrétienne. On n'a pas l'habitude d'imaginer Jésus évoluant dans une société animé par l'argent. Et pourtant, nous devons chasser une image un peu idyllique d'une société plus naturelle, plus fraternelle, qui vivait davantage d'échanges, d'homme à homme, de personne à personne, de solidarité. Il n'en est rien. Le monde des affaires était grouillant. C'est une illusion. Aussi grouillant qu'aujourd'hui, même si, bien entendu, aujourd'hui on parlera de capitalisme, on parlera sur un tout autre registre de l'argent, mais le fait est parfaitement identique. Et Jésus, voilà, ne fait pas un écart pour éviter la situation. Il prend non seulement la position extrême que l'on sait, l'homme ou l'argent, au fond, qui aura le dernier mot? C'est comme une maladie, où on en meurt ou on guérit. Témoin ces paraboles, celles que nous avons rappelées, l'homme qui développe sa fortune d'une façon excessive, qui ne sait plus où la ranger, où la garer, et quelqu'un, chose curieuse, qui meurt dans la nuit. Pourquoi? Sans doute que dans la parabole, son cœur s'est arrêté, mais dans la vie, son cœur ne s'arrête pas si facilement. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Il est arrivé qu'il est déjà mort parce qu'il n'avait plus de place pour être. Mort aussi celui qui dit dans l'Apocalypse, « Je me suis enrichi, je n'ai plus besoin de rien. » Celui-là ignore que ce dont il n'a plus besoin, ce dont il va être débarrassé, c'est de sa vie. Mais la force des propos de Jésus sur l'argent, c'est que cette formidable aberration humaine qu'est le désir d'avoir, il la débusque sans l'aide de la morale. La morale dit, tu as péché, tu as été gourmand, tu en as trop voulu, maintenant tu es puni. Ce n'est pas le langage de Jésus. Jésus n'est pas un homme de bien au sens d'un homme vertueux qui pourchasse le péché. Jésus, c'est un sauveteur. Il fait de l'homme un rescapé. Il veut le sauver de ce fléau qui jette l'ombre de la mort sur sa vie, l'argent, et bien sûr, sauf sur les pauvres. Et il y aurait beaucoup à dire sur la pauvreté dans la bouche de Jésus. C'est ce refus de moraliser qui l'a alors amené à utiliser l'image de l'argent avec la plus grande liberté, en en faisant l'image même du pouvoir de Dieu, et en faisant, alors là, ça va encore beaucoup plus loin, de Dieu, dans ses paraboles, un homme d'affaires, un propriétaire, voire un potentat. L'argent trompeur va figurer au plus haut sommet de son système d'enseignement, la parabole, pour devenir le moule dans lequel il coulera l'œuvre pour laquelle il est venu, et qui est celle-ci, placer le royaume de Dieu au milieu de nous. Alors les récits pleuvent, et puis curieusement, ce ne sont jamais des récits d'égalité, de partage des richesses, de justice, comme on l'attendrait, de cet homme généreux. Mais les hommes généreux font des rêves, et Jésus ne fait pas de rêves. Et même si c'est très beau de rêver et qu'il y a de grands rêves célèbres, ce n'est pas l'affaire de Jésus. Il est l'homme d'une entreprise, l'entreprise de son père, dont il doit soigner, défendre les intérêts, qui doit prospérer, fructifier. Il est le serviteur fidèle qui, au soir, comme ceux qui auront travaillé toute la journée à la chaleur et dans la sueur, diront « Nous n'avons rien fait de spécial, nous sommes ordinaires. » Le Christ aussi sera un homme très ordinaire, jusqu'à être assassiné sur une croix. C'est cet ordinaire, ce tous les jours du service que Jésus nous demande à notre tour de porter. Où est le salaire? Le salaire, c'est la joie du maître. Parce que Jésus ne valorise pas le travail. Il ne valorise pas la réussite, ni les capacités humaines. Il n'y a pas de gratification personnelle. C'est pourquoi il ne doit pas y avoir de gain personnel. La récompense, elle est dans le fait de faire fructifier, dans le fait de ne pas être stérile. On se rappelle cette histoire bizarre où Jésus, qui avait faim, dit-on, a vu un figuier de loin, s'en est approché, et voyant qu'il n'avait pas de fruits, est rentré dans une grande colère. Il était très irrité. Il a dit que jamais personne ne mange de ton fruit, puisqu'il n'y en a pas. Et le figuier a séché, raconte l'histoire. C'est ce même serviteur, vous vous le rappelez, qui avait enterré la somme d'argent, le talent qu'il avait reçu, au lieu de courir chez les banquiers. Ce qui importe, c'est la productivité. C'est pourquoi, comme dans les affaires, alors là on va arriver à notre parabole, comme dans les affaires humaines, Jésus fait une place à ceux qui ne sont pas vertueux, à des paresseux et à des voleurs, à des gens qui peuvent user de violence pour entrer dans le royaume de Dieu, à des gens qui peuvent ruser. N'a-t-il pas donné à ses disciples le conseil de l'être rusé? Ou encore, bien sûr, tout simplement, comme ça se voit partout dans le monde, comme on en entend les histoires tous les jours, des gens qui volent, qui détournent de l'argent pour avoir pour eux cette fascination qu'est la possession. Alors elle est remarquable, cette parabole de l'économe infidèle, parce que Jésus va jusqu'au bout de sa logique. Il met en scène un homme tenté par la richesse, bien sûr, qui a détourné de l'argent pour lui, qui maintenant est dénoncé, mais qui va continuer à trafiquer avec des gens aussi mal partis que lui, parce qu'il y en avait beaucoup des pauvres. C'était légion. Ce sont des gens endettés. Les commentateurs s'entendent pour penser que sans doute ils étaient exploités par le maître, par des taux d'intérêt trop élevés sur les prêts qui leur étaient consentis. Ce qui fait toute l'histoire, c'est que l'économe, comme les endettés, sont des gens qui sont en situation de survie. Ceci, c'est inutile de le dire, c'est très contemporain. Il faut donc qu'ils soient sauvés. Et qui va les sauver? Sinon, trouver le moyen, même le plus amoral, pour vivre. Et la pointe de la parabole arrive quand le maître loue, fait l'éloge de son économe voleur, admire la duperie dont il fait l'objet et les frais, mais qui sauve le pécheur, l'homme qui allait mourir. Le maître ainsi dérobé incarne l'évangile de la grâce. Il est ce Dieu dépouillé qui laisse ses biens sur la croix. Et alors, Jésus déclare quelque chose qui nous paraît tout à fait scandaleux. Faites-vous des amis avec l'argent trompeur. Il y a là une parabole dans la parabole. Faites comme le voleur. En vous sauvant, sauvez votre prochain. Soyez solidaires. Donnez, désendettez, libérez, comme Dieu désendette, donne, libère, sauve. Faites de même. Voilà le sauveur, le voleur qui devient sauveur et le donneur de leçons. On pourrait perdre pied avec tout ça. Entrecroiser ainsi deux mondes, celui de l'argent trompeur et celui du règne de Dieu, conduit à des situations déroutantes. Mais est-ce que ce n'est pas la vie qui est déroutante? Qui nous présente souvent des situations qui manquent de cohérence. Et il faut bien trouver comment en sortir. Alors qu'en est-il de ce parallèle entre le règne de l'argent et celui de Dieu? Est-ce que, à la limite, ce parallèle resterait chez Jésus encore et toujours du domaine de la rhétorique, c'est-à-dire du discours en parabole, ou existe-t-il quelque chose de plus profond qui ferait partie de la réalité de la foi? Ce parallèle nous fait entendre que Jésus met entre nos mains les affaires du royaume de Dieu. Et c'est quelque chose de nouveau qui surgit ici avec lui. Les prophètes parlaient déjà d'obéissance, y exhortaient. Ils disaient bien que les richesses ne sont qu'en Dieu, que ce sont celles qu'il faut chercher et non celles de ce monde. Ce n'est donc pas nouveau. Mais ce qui est nouveau avec Jésus, c'est qu'il ouvre une voie où le disciple est appelé à faire ce que fait le maître. C'est tout à fait nouveau. Et ceci recoupe ces déclarations souvent que l'on trouve dans l'évangile de Jean : celui qui m'a vu a vu le Père. Dans le provisoire qui était jusque-là notre vie, Jésus fait entrer du définitif. Alors, reléguer les paraboles que nous avons évoquées dans le registre de pure image, c'est bien en dessous de ce qu'elles dévoilent. Le royaume de Dieu est bien déjà dans ce monde, s'il n'est pas de ce monde. Jésus en est en somme le promoteur. Il est le premier à avoir lancé l'entreprise. Nous avons maintenant les plans, nous avons les matériaux, nous avons les idées, nous avons à poursuivre ce qui a été commencé, à bâtir sur ce qui a été posé comme fondement, et plus encore, à inventer, à dépasser, à surpasser. Et on se rappelle toujours avec un certain étonnement ce que Jésus a pu dire. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. Cela fait du christianisme quelque chose d'unique et quelque chose d'étrange. Et je reprends ici les accents de ce grand théologien allemand contemporain, Rudolf Bultmann, qui a su si bien décaper le christianisme traditionnel pour faire apparaître la part existentielle qui le domine. Et il peut dire, à la limite, le christianisme, c'est l'existence humaine. Et le christianisme, dans son essence absolue, c'est même la réponse à cette existence, parce que c'est la plénitude de cette existence. Au fond, qu'est-ce que l'homme pourrait chercher d'autre? Ne nous étonnons plus des images mondaines que Jésus emploie pour nous faire découvrir la proximité du règne de Dieu dans lequel nous sommes déjà entrés. Car notre foi en Christ ne se réfugie jamais dans le sacré, à l'abri de toute profanation, réservée à des initiés et même, j'ose le dire, à des baptisés que nous sommes sans doute à peu près tous ici, plus ou moins. Nous sommes laissés dans le monde où nous pouvons être démunis en recherche, dans le doute. Alors on se raccroche à quoi? On se raccroche au portrait d'un Jésus religion. Parce qu'il y a cette Église, tant mieux d'ailleurs, on ne s'en plaint pas, comme un grand dôme au-dessus de nos têtes qui protège. Et c'est aussi, heureusement, une relation de foi. Et ça aide. Mais ça ne peut qu'aider. C'est dans le monde qu'il faut retourner, parce que nous sommes dans ce monde et nous avons à y rester. C'est au milieu de ce monde, dans les relations des uns avec les autres, comme le gérant voleur a su les nouer, que nous pouvons maintenant partager les dons de Dieu et que nous cheminons vers celui qui demeure l'inépuisable vérité, le par-delà de toutes choses et l'au-delà de nous-mêmes. Amen.